Pourquoi, pour ceux qui n'auraient pas entendu, pourquoi on fait bouger les lustres, le polyhélios et les autres lustres, et les lampes qui sont devant les icônes, quand on entre dans l'église tout à l'heure après la proclamation de la résurrection? D'abord, il faut savoir que pendant les jours de fête, les liturgies de fête, à certains moments des offices et de la liturgie, on fait tourner les lustres principaux. Pas les lampes devant les icônes, mais les lustres principaux, on les fait tourner. Et ceci a la même signification que ce que je vais vous dire pour aujourd'hui. Après avoir proclamé la résurrection, le monde entier est en fête. Le monde visible et le monde invisible. Le monde terrestre et le monde céleste. Les hommes et les anges. Tout le monde danse, si on peut dire, danse spirituellement. Tout le monde exulte de joie pour la même réalité. Et on est en concélébration les uns avec les autres. Les anges et les hommes se réjouissent, exultent de la même joie pour le même motif. Et c'est pour ça que nous, les hommes, nous avons des cierges allumés à la main. Je vous signale d'ailleurs que nous nous sommes fendus d'une petite explication sur la signification des cierges, là où vous pouvez en acquérir. Et ça peut vous donner le sens un peu de la lumière que vous portez. Mais c'est les hommes portent la lumière, la vraie lumière, c'est le Christ, et les lumières que nous portons par nos cierges sont l'image, la réverbération, si je puis dire, du Christ lui-même, de la lumière divine. Et les cierges, les lustres et les lampes qui sont devant les icônes sont des lumières secondaires. En rigueur de terme, on dit des lumières secondes. C'est des lumières secondaires parce que c'est des lumières qui réfléchissent elles-mêmes la lumière. Comme je vous disais, la lumière, c'est la lumière divine. Et les êtres vivants, personnels, qui portent la lumière, ce sont les anges. Donc les lumières qui sont placées sur les plafonds, sur les voûtes des églises, sur le firmament, ce sont la représentation, c'est l'image, le reflet de la lumière que portent les anges. Et c'est comme ça qu'en les faisant tournoyer, en les faisant balancer, on exprime l'exultation des anges commune à l'exultation des hommes. Ça répond à ta question ? Après cette explication, je voudrais vous en donner une autre au sujet de la résurrection. Évidemment. Pourquoi nous exultons comme ça ? Parce que la cérémonie a été belle ? Parce qu'il y avait beaucoup de lumière ? C'était beau d'ailleurs. C'est entrer dans l'église avec pas des centaines, mais on aurait dit des myriades de lumières, tout illuminé comme ça. C'était beau. Et avec justement le polyhélios qui dansait, c'était une transfiguration. Mais nous n'en sommes pas à transfiguration, nous parlons de la résurrection. Et pourquoi nous exultons d'ailleurs, donc, pas à cause de la beauté de la cérémonie, pas à cause d'un événement qui historiquement a eu lieu il y a plus ou moins 2000 ans, pas non plus parce qu'à notre tour, nous allons ressusciter dans quelques minutes, quelques semaines, quelques mois ou quelques années, par notre mort-résurrection. Pas simplement pour ça, mais parce que la résurrection, c'est l'événement d'aujourd'hui. Pas aujourd'hui, 2 mai 2021, mais aujourd'hui de tous les jours. La résurrection, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. N'allons pas croire que la résurrection serait la revivification du corps du Christ, ni qu'elle serait la revivification de nos corps. Mais la résurrection, c'est le passage, la Pâque, entre un état de vie et un autre état de vie. Entre un état de vie qu'on appelle déchu, dont la mort et la maladie, la souffrance, les échecs, les épreuves de toutes sortes, provoquées ou subies, sont le signe. Mais au-delà de cette vie mortelle, de cette vie déchue, nous vivons déjà, si nous vivons la résurrection, le passage dans un autre monde. À chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous jeûnons pour Dieu, pas pour garder la ligne, mademoiselle, à chaque fois que nous tournons vers Dieu, à chaque fois que nous communions, à chaque fois que nous sommes à la liturgie ou aux offices, à chaque fois que nous avons un acte d'amour authentique, d'amour d'abandon de soi, pas un sentiment d'amour, hein, mais à chaque fois que nous donnons à l'autre, à chaque fois, c'est une manifestation de la résurrection. La résurrection, c'est le passage dans un autre mode de vie. Un mode de vie qui est éternel. Un mode de vie qui prend sa source maintenant, qu'on peut sentir, qu'on peut percevoir, qu'on peut, avec la grâce de l'Esprit Saint, qu'on peut cultiver. Mais c'est une réalité permanente, une réalité sensible, une réalité d'aujourd'hui. Un chrétien qui ne ressuscite pas aujourd'hui n'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est un ressuscité. Vous comprenez bien que quand je parle de résurrection, ce n'est pas de la résurrection de la chair, c'est-à-dire du corps fait avec des os, des nerfs, du sang, mais que c'est l'accession à la vie qu'on appelle de notre âme, l'accession à la vie qui nous est la plus intérieure. Et c'est la seule vie. Notre vie corporelle, appelons notre corps, si vous voulez, n'est qu'une enveloppe, provisoire, un cabas, un pochou, un gant. Mais tout ça, c'est jetable, et ce sera jeté. Ça ne restera pas. Mais ce qui importe, c'est ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est notre âme, c'est-à-dire ce que l'Esprit Saint vivifie, ce que l'Esprit Saint anime, ce qui est en nous capable, parce que c'est sa vocation, capable de recevoir la présence de Dieu et d'être illuminé par Dieu, illuminé par la lumière divine. Et Pâques, c'est donc le passage suscité par le Christ, actualisé par l'Esprit Saint, mais accepté, plus qu'accepté, désiré, cultivé par notre liberté la plus profonde, par, on appellerait ça notre effort, si vous voulez, notre effort de conversion. Un mot est plus juste, c'est par notre repentir, tout simplement. Lequel consiste à tourner résolument le dos à tout ce qui est trop humain, tout ce qui est trop logique, tout ce qui est trop selon notre raison qui est déchue, qui fait partie de notre corps, des os et des nerfs dont je vous parlais tout à l'heure, de tourner le dos à cela dans la mesure du possible, chacun selon ses forces, pour accepter, pour participer à cette vie divine qui nous est donnée gratuitement, mais qui est la seule vie. La résurrection, c'est prendre conscience de cette vie, avec un grand V, qui n'est pas un surplus, qui n'est pas quelque chose, une béatitude, un bénéfice, un don, au-dessus de notre vie ordinaire. Ce n'est pas un condiment qui vient donner du goût à la sauce de la vie. Ce n'est pas une réjouissance momentanée à laquelle on goûte au mieux pendant les offices ou pendant la prière, le dimanche ou les jours de fête. Mais c'est une soif, une énergie, une tension vers la vraie vie. Et c'est comme ça que les pères nous disent que nous devons avoir tout au long de notre vie la pensée, le souvenir, c'est le terme, le souvenir de la mort. Et le souvenir de la mort ne consiste pas à penser, à imaginer, à rêver ou à désirer laisser notre dernier souffle dans certaines circonstances, si vous voulez, rêver. Par exemple, être entouré de ses enfants avec sa femme qui nous tapote sur la main pour nous encourager. Et je ne sais pas encore quelles images on peut avoir de la, on peut avoir de la mort. Pour moi, c'est râpé, ça, de toute manière. Mais c'est pas penser à la mort historique, mais c'est choisir de mourir volontairement, maintenant et toujours, en chaque chose, pour revivre, pour ressusciter dans un autre mode de vie qui est la vie éternelle. Vous êtes occupé à une tâche qui vous accapare et quelqu'un vient vous solliciter. Si vous abandonnez avec générosité, je n'ai pas dit forcément avec plaisir, mais si vous acceptez de vous détourner de votre tâche pour vous consacrer à celui qui frappe à votre porte, vous mourrez et vous ressuscitez. L'évangile que nous avons entendu jeudi soir, vendredi matin, cette année, pour l'orthros des saintes souffrances, avec la première et longue lecture de proclamation de l'évangile de Saint Jean, qui est le testament du Christ. Ce que je vous recommande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pourquoi l'insistance sur ce commandement? Parce que s'aimer véritablement, c'est mourir à soi pour se donner à l'autre, sous toutes les formes les plus humbles qui soient, et les plus sublimes aussi, allant jusqu'à l'éventuel martyr. C'est le renoncement total à sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Et certains d'entre vous, personnellement, ou ont côtoyé des gens qui récemment ont frôlé la mort, bien dans ces situations-là, le fait d'accepter la souffrance, d'accepter la volonté de Dieu, d'accepter de pouvoir partir de ce monde, c'est déjà participer à cette mort-résurrection. La mort et la résurrection ne sont pas deux événements distincts. C'est un seul événement. C'est la mort-résurrection avec un trait d'union. Dans l'Église ancienne, on ne célébrait pas toute une semaine de reproduction théâtrale, si je puis dire. Et je ne me moque pas en disant ça, bien sûr, je ne critique pas. Mais ce n'était pas une reproduction des événements qu'a vécu le Christ et les apôtres pour les derniers jours de sa vie terrestre. C'est une pratique, une habitude qui a été prise dans l'église de Jérusalem où, étant donné qu'ils étaient sur les lieux mêmes, chaque année, on refaisait les mêmes pas, on revivait en quelque sorte ce qu'avait vécu le Christ quelques années auparavant. Et entre parenthèses, pour votre culture, sachez que nous connaissons ceci, nous connaissons ces pratiques des premiers siècles grâce à une bordelaise. Non, je ne parle pas de Sœur Ignace. Hein. C'est grâce à une femme pèlerin qui pérégrinait sur les lieux en Terre Sainte et qui allait de jour en jour, les jours de fête, sur les lieux où avait vécu le Christ dans ses différents passages. Et là, elle avait noté les cérémonies qui se déroulaient, on allait de là à là, de telle manière et telle manière. Et ça, c'est un document unique qui date du 4e siècle, et c'est là qu'est basé c'est un témoignage direct. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Mais pour vous dire que dans les premiers siècles, en dehors de Jérusalem, la manière de célébrer Pâques, c'était de jeûner un jour, puis trois jours, et de célébrer la liturgie et de communier. Ce jeûne et la communion montraient dans nos corps et dans notre âme, évidemment, montrer le passage, l'absence, l'exode. Ça évoquait l'exode des Hébreux dans le désert du Sinaï, après avoir quitté l'esclavage d'Égypte. Et nous-mêmes, nous quittons par notre jeûne l'esclavage des passions, en quelque sorte. Et la communion après ces trois jours à cause des trois jours du Christ passés dans le tombeau, bien sûr, et la liturgie, la Sainte Cène plus exactement à ce moment-là, et la communion étaient manifestés le passage entre une pénitence, entre repentir et une glorification. C'était véritablement l'expression de la mort-résurrection comme un seul événement. Petit à petit, l'Église a pris modèle sur celle de Jérusalem et on a commencé à imiter, à juste titre, mais ce que vous connaissez aujourd'hui. Mais d'une certaine manière, il y a un condensé de la foi qui maintenant nous manque. Mais c'est tout de même la même réalité, toujours ce passage. Pâques veut dire un passage, c'est le passage figuré par les Hébreux quittant l'Égypte, ayant immolé l'agneau pascal. Pour nous, l'agneau pascal, c'est le Christ qui a été immolé, qui nous fait passer de l'esclavage à la vie éternelle, qui nous fait vraiment de ce jour ou de notre vie une Pâque, un transfert qui ne doit pas attendre le dernier jour de notre vie terrestre, mais qui doit être aujourd'hui un abandon résolu, autant que faire se peut. Je ne vous dis pas d'abandonner vos femmes et vos enfants ou vos maris pour quitter le monde entier, mais avoir cette attitude de mort en soi-même, de mort à soi-même, pour nous engranger aujourd'hui dans le royaume des cieux. Et c'est de cette manière-là que nous pourrons tous, en communion, véritablement proclamer ce que nous ne cesserons de dire aujourd'hui, mais qu'il ne s'agit pas de dire du bout des lèvres, mais qu'il faut vivre à l'intérieur de soi-même et les uns avec les autres. Le Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.
Le Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.
Le Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.